Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous jusqu'à midi, après ensuite c'est André Bercoff qui sera avec vous. Nous allons commenter l'actualité avec aujourd'hui Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis.
Bonjour.
On vous retrouve également le lundi sur Sud Radio dans la matinale
tous
de Patrick
lundis
Roger.
Matin, oui, avec Patrick. Oui.
Absolument. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, membre de Debout la France. Bonjour.
Bonjour.
Michel Pouzol va arriver dans un instant, ancien député PS, membre de Génération.S, et Dominique de Montvalon. Bonjour Dominique.
Bonjour,
journaliste
Valérie.
Politique, éditorialiste. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Évidemment, le sujet, c'est la mise en examen du président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand doit-il démissionner? Est-ce qu'il peut tenir? Il a le soutien de l'Élysée, mais ça paraît un peu compliqué. Jean-Luc Mélenchon a-t-il raison de dénoncer une justice politique? Le procès doit s'ouvrir la semaine prochaine. On va y revenir. Et puis... un sondage tout à fait étonnant ce matin dans Le Parisien. Craignez-vous de devenir pauvre? La plupart, beaucoup d'enfants ont cette crainte de ne pas arriver à avoir le niveau de vie de leurs parents. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec Patrick.
Oui, alors tout d'abord, juste une petite précision. Ouais. Je suis membre de Debout la France, mais parce que j'ai payé ma cotisation.
D'accord,
je
mais vous n'êtes plus...
pas. Non, j'ai démissionné de mes fonctions de vice-président, que ce soit bien clair.
Pourquoi voilà.
Oui, oui, une divergence d'appréciation, on dira de manière soft, avec Nicolas Dupont-Aignan.
C'est voilà. Dommage.
Oui, dommage, je ne sais pas, on verra.
Alors, votre coup de cœur,
coup de gueule contre les Dupont, T et D, comme dans Tintin, de la politique, que sont aujourd'hui Christophe Castaner et Nicole Belloubet.
Ouais.
Parce qu'on se demande dans quel monde ils vivent. Je veux dire, aujourd'hui, M. Castaner, si je ne me trompe pas, a eu pour mission de, ou avait annoncé qu'il lutterait, il ferait la chasse aux résurgences de la peste brune. Il y a même une commission d'enquête sur les malversations de l'extrême droite française. Moi, ce que je vois dans la rue, ce n'est pas tout à fait ça. Et Mme Belloubet emboîte le pas. On a appris hier qu'elle modifiait la loi sur les mineurs de moins de 13 ans. Donc je peux affirmer que d'ores et déjà, il n'y aura pas de chômage chez les moins de 13 ans parce qu'ils vont vite être embauchés par tout ce qui se passe dans les banlieues pour ne pas risquer quoi que ce soit. Alors que moi, si je regarde l'actualité, je vois Vannes, je vois Vaux-en-Velin, je vois Quimper, je vois Grigny et puis tous ceux qu'on ne cite pas. Franchement, dans quel monde vivent-ils? Il est grand temps que ça cesse, il est grand temps qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe en France, parce que nos concitoyens, ils sont pas sur des choses à très long terme, ils vivent ça au jour le jour. J'ai vu hier une dame qui annonçait que sa voiture neuve, ça avait l'air d'une petite C3 ou quelque chose comme ça, avait été simplement cramée. Et je sais pas si elle est indemnisée, en tout cas si ça fonctionnera bien. Donc ça, c'est vraiment mon coup de gueule. J'en ai assez que ces gens-là soient sur une autre planète. Je pense qu'il est grand temps qu'ils reprennent en main les choses et qu'on s'intéresse au sort quotidien des Français qui vivent l'insécurité. Et j'en ai assez aussi d'entendre parler de sentiments d'insécurité.
Un commentaire, Michel Pouzol, qui vient d'arriver.
J'aurais pu choisir ces deux ministres-là, peut-être pas tout à fait pour la même raison, effectivement... on peut dire que M. Castaner, je le dis, je le répète au fil des semaines, n'est vraiment pas à la hauteur du costume qu'on lui a fourni. C'était pas une surprise pour ceux qui le connaissaient avant. Malheureusement, notamment la manière de gérer la crise des Gilets jaunes l'a prouvé. Alors sur les difficultés, je viens de l'Essonne, donc je connais bien Grigny.
Moi aussi.
C'est une zone, voilà, je sais, donc c'est une zone très particulière. La Grande Bande, c'est un sujet récurrent. Je vous rappelle que c'est là où des policiers avaient été incendiés dans leur voiture.
Oui, hein, il y a Grigny, Éric Châtillon,
c'est à côté.
Comme l'a évoqué Patrick Mignon, il y a eu Quimper le week-end dernier.
Il y a effectivement des zones comme ça qui mériteraient qu'on s'y attelle vraiment, qu'on remette aussi de la police de proximité peut-être, parce que les choses étaient quand même un peu moins... On gagnait un peu du terrain dans ces quartiers-là à cette époque-là, on en perd maintenant. Je pense qu'on n'aurait pas tout à fait la même opinion sur les manières de faire dans ces quartiers-là et ce qu'il faut y faire.
Oui,
mais en tout cas, il faut qu'on se penche sur ce sujet-là. Ça doit être un sujet prioritaire et il faut remettre de l'égalité dans nos territoires.
Absolument.
Parce qu'on a des problèmes de fracture d'égalité. Je vous rappelle que des maires de Seine-Saint-Denis ont porté plainte contre l'État pour rupture d'égalité sur les territoires. C'est une réalité et ça se transcrit notamment dans ces zones-là.
Et pas seulement là, je rajoute d'ailleurs le traitement médiatique de ça. Parce qu'il y a une volontaire censure des médias qui ne parlent pas de ce genre de problème ou qui en parlent de manière édulcorée, avec le pas d'amalgame. à titre, ce qui m'a choqué, le meurtre, vous vous souvenez du meurtre du jeune de 19 ans, Timothy,
ouais, ouais,
j'ai vu présenter que c'était un homme de 19 ans quand on nous assène que ailleurs ce sont des jeunes qui foutent le bordel. Je suis désolé, les mots ont un sens. Ouais, les mots ont un sens.
Dans le même sens, la semaine dernière, donc, il y a ce jeune homme, pour le coup, 17 ans, c'est un jeune qui est entré dans une école et qui a menacé une femme en criant « Allahu Akbar ». Il a attrapé des ciseaux. Et la jeune femme, ce matin, dans Le Parisien témoigne, Sandra, elle ne comprend pas pourquoi le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. C'est-à-dire qu'il a été déclaré fou. Elle dit, il a été hospitalisé en psychiatrie. On a un petit peu de mal à comprendre. Quand il a pris les ciseaux et pas les crayons, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc bien là sûr. Aussi... petit article dans Le Parisien, peu de conséquences suite à cette attaque. Un mot, Alexis ?
Ouais, non, c'est effectivement, on a l'impression que c'est un problème qu'on ne veut pas traiter ou difficilement. On a aussi ces djihadistes qui reviennent d'Irak qui vont être en phase test dans l'île, suivis pour une réinsertion. Est-ce que c'est possible la réinsertion une fois qu'on a ce parcours-là ? Alors on peut essayer, hein, mais ça me semble compliqué. Ouais. Et c'est vrai qu'après, c'est la question du quotidien, du sentiment. Alors, sentiment d'insécurité, c'est un terme effectivement qui ne veut pas dire qu'il y a une insécurité réelle et vécue, et qui n'est pas la même pour tous. Donc, voilà, c'est compliqué de juger.
Vous avez remarqué d'ailleurs, Valérie également, très vite, que hier, puisque vous avez fait le Médiamétrie juste avant, dans l'heure précédente, moi j'ai cherché en vain l'évocation dans les journaux de 20h, France 2 comme TF1. De l'anniversaire du 11 septembre. Ça a disparu des écrans. On n'est jamais que 18 ans après les faits. Écoutez, je suis surpris qu'on n'en parle pas, quand même.
Dominique ?
Non, moi, j'ai été frappé de ce que vous dites, moi aussi, de ce que vous disiez. Alors, vous évoquez Nicole Belloubet et Christophe Castaner, notamment Castaner. On a eu l'occasion pendant des semaines, et on aura sûrement dans les temps à venir l'occasion d'en reparler. Mais il me semble, en tout cas, c'est ce que j'entends, que le cœur de votre propos, c'est de souligner... les questions qui se posent autour de ces jeunes de plus en plus nombreux, extrêmement jeunes, et qui errent dans les rues avec des aptitudes à la brutalité ou à la guérilla. Je voudrais dire une chose, je ne pense pas que ça relève de la censure, mais ça traduit un embarras qui dépasse...
Oui, je comprends.
Ce n'est pas une...
En
utilisant ce mot...
Non, je suis d'accord.
Mais c'est un embarras... Et je dirais que, du coup, ça fait partie de ces sujets qui sont des sujets tabous. Alors, j'espère ne pas relancer le débat sur autre chose. Alors, il y a celui-là. On aimerait que les cartes soient mises sur la table. Qu'en est-il exactement,
etc.
Et je prends un autre cas, mais le vôtre se suffit pourtant à lui-même, ce que vous avez évoqué. C'est le problème de l'aide médicale d'État.
Ouais.
Il y a sur les réseaux sociaux des tonnes de polémiques, de choses comme ça, de gens qui arguent d'infos qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. On aimerait que les cartes, là aussi, soient mises sur la table.
Qu'on dise les choses clairement.
Qui en bénéficie, quelle est la progression d'année en année, et bénéficie de quoi.
C'est pas aux journalistes de faire le boulot.
Il y a beaucoup à dire. Il y a un rapport
qui arrive là-dessus, justement.
Et ben, j'espère que cette fois, il sera... Non, mais voilà, je ne désespère pas.
Alexis Poulain.
Qui est surprenant sur certains sujets. Moi, j'ai de la famille guatémaltèque qui en bénéficie quand ils viennent en France en touriste, par exemple. Pour
mais
voilà,
il se trouve que je connais
ça,
aussi. J'ai raison de connaître un peu ce sujet. Et si la vérité est dite, il y aura des éléments surprenants. Cela dit, on ne va pas se laisser emporter par la passion.
Attendons le rapport. Alexis, votre coup de cœur.
C'est plutôt un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. C'est sur le procès des décrocheurs de portraits présidentiels qu'on traite comme de dangereux séditieux. Encore une fois, alors que c'est une action militante qui est là pour montrer le vide en fait et l'hypocrisie de la politique écologiste d'Emmanuel Macron, qu'ils soient devant un tribunal, ça pose question parce que c'est pas leur place. C'est vraiment pas. C'est de l'argent d'ailleurs qu'on dépense pour rien. C'est du temps de perdu. On voit des réquisitoires du procureur, c'est complètement lunaire. Qui cite Thureau, c'est dingue. Et les gens qui disent, mais nous on a fait ça simplement pour qu'on parle de nous, c'est réussi, on parle d'eux, on l'a fait, ça ne change pas grand chose. Ils ont continué d'ailleurs à décrocher encore un portrait hier pendant le procès, et on se dit, mais c'est complètement ubuesque. On est en train de juger des gens qui sont là pour alerter sur le climat au lieu de traiter traiter les vrais problèmes. Je comprends pas, les juges dans ce tribunal doivent se regarder en disant mais je sais pas ce que je fais là, et en fait non, on écoute et il y a un biais en disant on doit pas, c'est la République, on doit pas décrocher les portraits du président.
Est-ce qu'on doit en mettre
ils sont pas, alors ils ne sont pas poursuivis pour avoir décroché les portraits, mais pour vol.
Oui,
puisque vol. Ils
alors, non,
les ont sortis
de la mairie.
C'est
et ils ont dit qu'ils les rendraient voilà, une fois que la politique d'Emmanuel Macron changera.
Non, mais on voit bien, qu'encore une fois...
Mais d'un côté, vous ne pouvez pas demander qu'on applique la loi.
Mais quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est un petit peu là, on est vraiment typiquement dans cette chose-là.
Allez, Michel, votre coup de cœur.
Moi, c'est un coup de cœur, c'est un peu un marronnier. C'est plutôt... Voilà, mais comme la rentrée va être sociale, risque d'être très chaude, elle va commencer avec la grève de la RATP sur les retraites notamment. Je voudrais inviter tout le monde, tous ceux qui veulent débattre, s'unir, combattre cette politique, à se rendre ce week-end à la grande fête de l'UMA. Voilà, donc je fais un coucou aux camarades qui organisent la fête de l'UMA. Il y a des débats, il y a des concerts, il y a Aya Nakamura, ma fille me dit il faut bien prononcer. Aya Nakamura, je pense que ça va être un grand moment culturel notamment, il y a Kassav, il y a des choses comme ça. Voilà, c'est toujours un moment festif, mais il y a beaucoup de débats.
Mais c'est tout sauf la fête de l'UMA, si ?
Si, non, il y a des vrais débats, il y a des vrais débats politiques, il y a des vraies choses qui s'y disent.
Alexis, il sera, voilà.
J'y serai samedi avec Hassan Amou, qui est aussi souvent sur ce plateau, qui fera partie d'un des débats du samedi.
Moi, je n'irai pas faire des débats, mais je pense que j'irai manger une merguez ou deux quand même aussi, parce que ça fait partie du combat politique.
Alors, Dominique, je vais vous donner la parole dans un instant. Moi, c'était un coup de cœur et un coup de gueule à la fois, c'est sur l'euro de volley. Le volley français n'intéresse personne, alors que... on s'est moi ça m'intéresse pas particulièrement, mais je trouve que c'est injuste. Mais je trouve que c'est injuste. Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est une équipe qui fonctionne bien, qui performe. On n'en parle pas ni dans les médias et ces garçons sont payés 80 euros, je crois, par match.
Mais vous avez vu qu'il y a une révolte des filles du handball qui ont le même problème. C'est-à-dire là, c'est vraiment le rapport du sport féminin. Elles sont montées au créneau cette semaine, je crois, pour dénoncer le fait que personne ne s'intéresse au handball féminin, qui a à peu près les mêmes résultats que les garçons. Donc c'est une des équipes collectives françaises les meilleures au monde et ça n'intéresse pas les médias, personne n'est le volet effectivement.
Ouais, alors que le hand a...
Vu le nombre de chaînes de télé qu'on a aujourd'hui, on pourrait recycler franchement toutes les manifestations sportives. Quoi.
Injustice. Ouais. Alors Dominique, c'est un coup de cœur. On va en reparler.
Je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, ça dépend de... Je veux parler du reportage de Quotidien. Ouais. Sur la perquisition...
À la France Insoumise.
La perquisition dans les locaux de France Insoumise et ensuite au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Alors, bon, on va en entendre parler, puisque la semaine prochaine, il y a le procès dans lequel comparaître devant lequel...
Oui, ils sont cinq
Mélenchon
à comparaître.
Mélenchon devra s'expliquer là-dessus. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est déchaîné avec ses amis en parlant d'une police politique à propos des journalistes de Quotidien, avec lesquels j'ai aucun lien professionnel, etc., qu'ils avaient fait un montage discutable et qui biaisait avec la réalité. Bon, alors du coup, ils ont répliqué en donnant la totalité de ce reportage. Bon, ça neutralise les attaques qui étaient faites contre la pseudo-police politique dont ils auraient été les agents. Mais je veux dire, c'est... La vérité, de mon point de vue, forcément, pour le dire d'un mot, on pourrait en parler longtemps, c'est que si ce n'était pas agi de Mélenchon, celui qui aurait été à sa place et ses autour, aurait été immédiatement en garde à vue. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ouais. Quand on voit ce qui se passe là, ils ont perdu le sens commun. J'ai connu, il n'y a pas si longtemps quand même, quand j'étais à l'Express et surtout aux Parisiens, j'ai connu... professionnellement et à plusieurs reprises un Mélenchon formidable, on pouvait être en désaccord avec lui, qui était un grand républicain et qui est un mec, parler comme ça, un homme cultivé et fort, là je sais pas, alors en plus c'est aggravé par son escapade en Amérique latine, il se prend pour je sais pas pourquoi, enfin, je préfère pas m'apesantir, mais qu'il se reprenne, il est encore temps qu'il se reprenne.
On va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que Quotidien a diffusé l'intégralité, séquence.
Malheureusement, ça ne facilite pas la défense de Mélenchon.
On marque une pause et on parle de Richard Ferrand. Va-t-il pouvoir rester à la tête du perchoir ?
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Nouvelle épine dans le pied pour le président de la République, pour la majorité. Hier soir, Richard Ferrand a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Il a été entendu hier pendant plus de 14 heures par trois juges d'instruction. va-t-il pouvoir rester ? Le gouvernement, le président de la République, en tout cas l'Élysée, a fait savoir qu'il soutenait le président de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter les arguments d'Aurore Berger ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez.
De manière très claire, une instruction n'est pas une condamnation et une mise en examen n'est pas une présomption de culpabilité. Donc il n'y a aucune raison que l'on oblige Richard Ferrand aujourd'hui à démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. Concernant Anticor, je rappelle quand même que l'affaire avait été dépaysée à Lille parce qu'il y avait un conflit d'intérêts qui concernait Anticor. Et c'est pas à Anticor de nous dire, en fait, si telle ou telle personne doit démissionner. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a une instruction qui est en cours. Et c'est cette instruction qui déterminera les responsabilités, s'il y a des responsabilités.
Mais on rappelle à Aurore Berger, effectivement, il y a la présomption d'innocence, mais il a été mis en examen. Et c'est pas Anticor qui a mis en examen Richard Ferrand. Ce sont trois juges d'instruction qui, au vu du dossier, ont jugé qu'il devait être mis en examen. Donc, c'est l'argument est un peu... Enfin, on sent que c'est la sortie des rames ce matin.
Ce qui est amusant, Bouzon, entre guillemets, dans cette histoire, c'est qu'il y a quelques semaines, Castaner, notre inénarrable Castaner, disait s'il est mis en examen, il n'aura pas d'autre choix que de démissionner. Et il lui a apporté son soutien aujourd'hui. Donc c'est déjà, on voit une espèce de brouhaha comme ça dans
la majorité. On aurait dû retrouver le son, j'ai pas trouvé.
Incroyable. Ouais. Idem, M. Ferrand lui-même disait de Sarkozy, je crois, qu'il était, quand il avait été mis en examen, qu'il était complètement décrédibilisé, qu'il fallait pas...
Il avait perdu toute autorité morale.
Donc c'est quand même très compliqué pour le quatrième personnage de l'État, parce qu'il faut rappeler que le président de l'Assemblée nationale, c'est pas simplement le type qui s'assoit au perchoir ou qui éventuellement fait des dîners avec des homards. C'est quand même le quatrième personnage de l'État, c'est pas rien, c'est important. C'est très compliqué de rester en étant mis en examen. Alors après, la présomption d'innocence, elle s'applique effectivement, sauf que en voulant moraliser cette République qui, soi-disant, était totalement immorale avant En Marche, ce qui est quand même un peu exagéré, il y avait de l'immoralité, mais pas que, on voit bien dans quel processus s'est engagé En Marche, et là, je ne vois pas comment ils vont pouvoir défendre M. Ferrand jusqu'au bout.
Parce qu'on se souvient quand même de la campagne présidentielle sur la transparence, la moralisation de la vie politique, et effectivement, je retrouve la phrase dont vous parlez, si Richard Ferrand était mis en examen, il serait immédiatement démis de ses fonctions. On se rappelle que Richard Ferrand a démissionné suite de cette affaire, et il n'était pas mis en examen, donc ça veut dire quoi? Que le gouvernement, c'est plus important qu'être président de l'Assemblée nationale et qu'on peut finalement
Être mignon. Je suis d'accord, Michel Pouzol, en plus, non seulement c'est le quatrième personnage de l'État dans le rang protocolaire, mais surtout c'est le président de ceux qui font les lois, dont on suppose qu'il les a violées. Ça reste à démontrer, la présomption d'innocence est pleine. Moi, je suis favorable à ce qu'on proposait, c'est-à-dire qu'en fait, tout politique qui est mis en examen, vu qu'il y a
règle,
un doute, il se met en retrait de la vie politique
c'était
dans un premier temps.
C'était censé être la règle, non ?
Un premier temps. Ensuite, nous, on allait plus loin, on demandait une inéligibilité à vie, une fois que le jugement avait été prononcé et que tous les recours avaient été épuisés. Parce qu'en fait, ils avaient fauté sur le plan moral et qu'on ne peut plus se présenter au suffrage des Français. Donc, on n'en est pas là, bien évidemment, Madame Berger le rappelle, sauf que, il est quand même le président de l'Assemblée nationale. Donc, au minimum, il devrait y avoir un retrait de sa fonction de président de l'Assemblée nationale, qui reste député sur le plan alimentaire, j'en sais rien, c'est pas à moi de décider de ça, mais il devrait être en retrait de la vie politique jusqu'à ce que le jugement soit prononcé.
C'est compliqué, effectivement, d'avoir des... c'est la règle, sauf que quand ça vous concerne, c'est plus la règle.
Il y a un truc qui me choque, en plus, sur le plan constitutionnel. C'est la prise de position, enfin le soutien affiché par le président de la République à M. Richard Ferrand. Je suis désolé, il y a une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que qui M. Macron veut-il influencer là? Parce que son soutien, on sait qu'il l'amène à Richard Ferrand. On sait d'ailleurs que Richard Ferrand l'a soutenu dès le début, en trahissant son camp. Moi, je trouve une chose anormale, c'est que le président de l'exécutif intervienne vis-à-vis d'un des membres éminents du Parlement. J'espère que les sénateurs vont dire quelque chose là-dessus, que M. Larcher et d'autres vont intervenir. Et puis, il intervient aussi vis-à-vis de la justice. Parce qu'en fait, le juge d'instruction qui décide de poursuivre ou de mettre en examen Richard Ferrand, il a le président de la République qui lui dit clairement, je ne suis pas d'accord. Or, la séparation de l'exécutif, du judiciaire, du législatif devrait être là. M. Macron est le président de tous les Français, Dominique. Je ne suis pas favorable à Richard Ferrand, mais monsieur...
Votre réquisitoire est
subtil. C'est pas un réquisitoire.
Votre réquisitoire est subtil et fort, mais de mon point de vue, combien même serais-je le seul parmi tous les auditeurs.
Mais vous répondrez dans un instant. On marque une petite pause, mais vous nous direz.
Il y a quelques éléments.
Vous avez un petit peu le temps de préparer votre réponse. 0826-300-300. Est-ce que la situation est tenable pour Richard Ferrand? Vos réactions. On aura Martial également en ligne avec nous.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Richard Ferrand, mis en examen hier soir, le président de l'Assemblée nationale, doit-il démissionner selon vous? 0826-300-300. Dominique, vous vouliez répondre à ce que disait Patrick Mignon, Dominique de Montvallon.
J'ai été impressionné par la... par le propos. Je pense qu'il était inutile de glisser là-dedans une petite pique superfétatoire de mon point de vue, à savoir il a trahi. Bon, on n'en sort plus.
Non, mais est-ce que le président. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le président de la République.
Alors, c'est là-dessus que vous voulez venir.
Oui. A eu raison. Enfin, a raison.
Il ne s'engage pas contre les juges d'instruction, contre la décision. Il apporte un soutien politique ponctuel. C'est le moins qu'il pouvait faire. Mais attendez. La décision, j'ai l'impression que le pouvoir, l'exécutif, a été pris de court et qu'ils ont...
Ils s'y attendaient pas ?
Pas forcément, et que le truc est tombé à 11h du soir. Je veux dire par là que mon pronostic est que les choses vont évoluer.
Martial est en ligne avec nous. Bonjour Martial.
Bonjour.
On vous écoute.
Écoutez, sur cette affaire Ferrand, moi je pense que, d'abord, pour être très clair avec vous et vos auditeurs, je suis un adversaire politique d'En Marche. Mmh. Donc voilà, ça c'est, il faut poser le débat. Néanmoins, moi je pense que, au-delà de l'affaire Ferrand en tant que personne, il faut élargir le débat sur les dangers que court notre démocratie. Que se passe-t-il aujourd'hui? On a une personne qui est mise en examen. Je connais pas le dossier, et la justice fera son travail. Jusqu'à présent, me semble-t-il qu'il y a la présomption d'innocence. Et voilà que cette personne, parce qu'elle est mise en examen, sa vie doit s'arrêter totalement, parce qu'il sera marqué à jamais. Il est jeté à la vindicte des médias, des réseaux sociaux, du peuple français. Il doit se mettre en apnée durant le temps de l'instruction, le temps du procès, épuiser les voies de recours. Mais c'est, je trouve ça très dangereux, bien entendu, qu'il ne doit pas démissionner. Bien entendu, parce que ça veut dire quoi pour moi? Ça voudrait dire que nous serions sous un gouvernement des juges qui pourraient mettre en examen qui bon leur semble, à juste titre ou pas, cette personne serait complètement discréditée pour le restant de ses jours, et finalement, ils pourraient fermer les yeux sur des personnes qui leur conviennent et qui elles, mènent le pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour moi, le juge, d'accord, c'est pas un surhomme. Un juge, il a sa personnalité, il a ses idées politiques, il a le droit de se tromper.
Ouais. Enfin, il y a du factuel aussi. Il y a des choses qui sont qui tiennent du factuel. C'est-à-dire qu'il y a des événements, il s'est passé une chose, et au regard de ce qu'ils ont pu entendre hier, ont jugé qu'il fallait le mettre en examen. C'est pas non plus des choses totalement impressionnistes. Là, il y a des faits assez concrets qu'on connaît. Vous avez raison de dire qu'on connaît pas le dossier, mais quand on voit que François de Rugy a été obligé de démissionner, qu'il n'a pas été mis en examen, on peut s'interroger.
François de Rugy, il choisit de démissionner pour assurer sa défense.
Il a été poussé démission. C'était intenable.
Mais ce qui fait un précédent, et justement, le problème, c'est ce que disait Richard Ferrand, une mise en examen d'un politique aussi haut dans le rouage de l'État, ça lui enlève toute autorité morale. Le problème, il est là. Il est sur la vertu en politique. C'est un problème qui est vieux comme le monde. Sauf qu'il revient beaucoup et souvent. Alors, quand on est ministre, on doit démissionner. Quand on est président de l'Assemblée nationale, ce serait normal de rester. Non, c'est pas deux poids deux mesures. Là, on a une vraie question sur la moralité de
cette affaire. Mais là où Martial a raison... dans l'absolu, c'est-à-dire que la mise en examen, il a sa vie pourrie, quoi. Même s'il est innocenté après, il a été démissionné, et c'est très compliqué.
Ce qui est très difficile, c'est quand on est en période de troubles politiques ou de remue-ménage, ce qui peut se passer à l'Assemblée avec les lois qui vont arriver, parce qu'il y en a un paquet qui vont provoquer des débats à la fin de l'année. Si en plus on est mis en examen, et donc on est livré, effectivement, aux médias, parce que vous allez voir que les gens vont commencer à le juger coupable, c'est malheureusement une réalité, ça devient intenable. Ça devient intenable, et c'est même préjudiciable pour l'ensemble du travail démocratique, c'est pour peu qu'il existe encore à l'Assemblée nationale. Donc, l'affaire de Rugy crée un précédent, pour lui, désastreux, et je pense que certains le rappelleront, parce que de Rugy, après tout, démissionne, mais n'est pas mis en examen, mais pour l'instant, on en reste là. C'est désastreux pour Ferrand. Et comment tenir les affaires de l'État dans la... ce qui risque d'être une tempête sociale à la rentrée, avec un président de l'Assemblée nationale mis en examen, ça va être, moi je connais un peu le fonctionnement de l'Assemblée à l'intérieur, ça va être intenable et du matin au soir pour lui. Donc, si Macron veut se protéger, je pense que la meilleure des protections, ça sera à un moment donné d'abandonner.
Il a nommé aussi Sylvie Goulard à l'Europe avec une sorte de bras d'honneur en disant.
C'est vrai que cette nomination.
Attention à cette nouvelle jurisprudence. Attention à cette nouvelle jurisprudence. Il n'a échappé à personne. Que presque dire en pleine nuit, en tout cas au petit matin, le premier qui est intervenu, comme par hasard, est un des lieutenants de Marine Le Pen, pour expliquer que tout ça était très condamnable, mais que naturellement, il ne demandait pas la démission du président de l'Assemblée nationale. Et pourquoi ? Mettons les points sur les i lourdement, mais ça ne vaut pas que pour l'extrême droite, ou en tout cas pour le Rassemblement national, ils préfèrent qu'on les appelle comme ça. Parce que, après-demain, c'est elle qui risque d'être mis en examen pour de toute autre raison. Et automatiquement, autrement dit, le profil, le paysage de la prochaine élection présidentielle, dont aujourd'hui personne ne peut savoir, moi le premier, comment ça se présentera, parce que les choses vont, en tout domaine, changent si vite d'un mois à l'autre. Bon, mais le paysage risque de ne plus du tout, si on met en œuvre cette entre guillemets, jurisprudence, de ne plus du tout être les mêmes. Plus les mêmes personnages. Attention, là on met le doigt dans un engrenage qui dépasse l'intéressé d'aujourd'hui.
On a Paul en ligne avec nous. Bonjour Paul.
Bonjour.
On vous écoute, vous voulez réagir, vous êtes sur Sud Radio.
Oui, tout simplement déjà, je vais vous le dire, je ne suis pas vraiment un soutien du gouvernement, mais bon, je trouve que déjà, le fait qu'on lui demande de démissionner avant même qu'il y ait une condamnation quelconque, c'est un peu fort de café, parce que ça voudrait dire que on pourrait accuser n'importe qui d'un crime quelconque et sans même avoir de preuves ou de condamnation et qu'il y ait un jugement, on pourrait faire un chantage sur n'importe qui. Donc déjà ça c'est un premier point. Après deuxième point, le fait que que les politiques aient des intérêts personnels et qu'ils jouent un petit peu de leur pouvoir pour pouvoir faire ça, bon, ça n'a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'en plus, on parle de ça pourrait lui détruire sa vie privée, sa vie personnelle. Moi, très sincèrement, je ne le pense pas vraiment. De toute façon, ces gens-là sont très bien rémunérés, ils ont des bonnes retraites, ils ont même des petits avantages en nature. Et je vais vous dire, Fillon l'a fait, Manuel Valls l'a fait, Sarkozy l'a fait, je veux dire, la liste est super longue. C'est limite, c'est un passage obligé. Et au pire des cas, si jamais il est condamné par la justice, il doit faire la prison, il aura une cellule VIP à la santé. Donc finalement, peut-être que pour empêcher ce genre de cas de se reproduire, parce que finalement, c'est la question, c'est pas qui fraude, mais finalement, qui s'est pas encore fait prendre. Voilà mon point de vue. Donc peut-être que la raison, peut-être qu'une solution à ça, ce serait déjà de dire, si un homme politique ou quelqu'un de très influent doit être condamné, il devrait faire de la prison, mais dans une cellule, une vraie cellule de tôlard, plutôt que le privilégié, parce que finalement, il ne perd pas grand-chose.
Mais là, on n'en est pas là. La question, c'est de savoir, est-ce que la situation est tenable? Écoutez ce que disait Renaud Muselier ce matin, qui était l'invité politique sur Sud Radio dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus.
Le cas de monsieur, le président de l'Assemblée, monsieur Ferrand, est bien particulier. Il a démissionné du gouvernement, parce qu'on parlait de lui et de son affaire. Et aujourd'hui, quand il est mis en examen, il reste au Parlement. C'est quelque part une insulte au Parlement. Mais il n'est pas coupable.
C'est une insulte au Parlement. On voit bien qu'on s'en fiche du travail législatif, on s'en fiche des représentants des citoyens français. Enfin, il est au perchoir, c'est pas rien. Il est censé animer les débats des gens qui vont faire les lois. Donc, c'est pas une personne lambda. Et le fait que, parce qu'on parlait de son affaire, effectivement, il doit démissionner quand il est ministre, là, non, on nous explique que il ne doit pas démissionner, vous comprenez, c'est seulement une mise en examen. Enfin, ça commence à bien faire, tous ces politiques qui sont mis en examen. À un moment, vous avez ce côté du tous pourri qui monte et qui n'arrête pas. Il faut se poser la question aussi de cette... Quand on promet une moralisation de la vie politique, il ne faut pas promettre comme ça en l'air. Le problème, il est là, c'est que plus on avance, plus on se rend compte que vous avez des conflits d'intérêts à l'Élysée. Alexis Colère qui est au cabinet des
Il y a eu un non-lieu.
Encore une fois, on essaie de creuser encore davantage. C'est toujours, soit on s'en sort, soit on fait le truc, mais le conflit d'intérêts.
Je rejoins ce que disait l'auditeur précédent, il y a une mise en examen, il y a une présomption d'innocence. Donc, on lui demande de partir, il ne reviendra jamais à l'Assemblée nationale s'il démissionne, s'il quitte.
Et alors,
Alexis Colère que vous évoquez.
Il fallait peut-être réfléchir avant de taper dans la caisse pour faire la maison.
S'il n'est pas condamné, on estimera qu'il n'a pas tapé dans la caisse.
S'il n'est pas condamné, mais il voilà. y a ce problème de l'enquête va prendre du temps, donc il peut rester effectivement. Mais il y a le précédent de Rugy qui lui démissionne en disant je ne sais pas ce qui s'est passé.
J'ai rien mais, fait, voilà. mais je
puis
me
après
retire.
Vous avez encore ce député qui se faisait rembourser deux fois ses frais de bouche, qui dit je vais rembourser, tout ira bien. C'est soit on rembourse, et non, ça n'absout pas de ça. Et le dernier écueil à éviter, c'est quand la défense c'est de dire mais il est élu, vous savez,
oui, l'élection
c'est pas
ce
une absolution, c'est au contraire, bien
oui,
au contraire.
Il a été élu, Dominique.
Je voudrais juste ajouter ceci. On parle de moralisation de la vie publique et Macron s'est présenté comme un avocat de cette thèse et de ce projet-là. Vous savez, par rapport à ce qui s'est passé pendant 30 ans ou 40 ans, toute tendance politique dans ce pays, ça n'a pas commencé avec Macron, ça avait déjà commencé un peu avant, mais ça s'est accentué avec lui et c'est pas dû à lui, c'est dû à l'évolution dans les têtes. Les exigences des citoyens, mais plus aucune faute ne passe à l'as. C'est ça la réalité. Alors on est en train de parler du problème de savoir s'il doit démissionner ou pas. Bon, c'est un vrai problème et je n'ai pas d'éléments particuliers à apporter là-dessus. Mais est-ce que vous n'êtes pas frappé? On va avoir dans quelques heures ou dans très peu de temps le verdict de Balkany. Les autres cas, je ne les cite pas. J'ajoute d'ailleurs que s'agissant d'un homme politique, au lieu de parler de prison, s'il a assassiné quelqu'un ou si les juges en décident ainsi, très bien, la prison. Mais il y a bien pire. C'est la privation des droits civiques
et
l'obligation de ne plus pouvoir se représenter. Je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte de ce que ça veut dire. Ça, c'est une sanction, croyez-moi. Très alors, ce n'est pas pour l'épicier ou pour moi, parce qu'on n'est pas concerné, mais c'est une obligation. Non, ce qui se passe quand même, c'est que plus rien ne peut être effacé. Aucun pouvoir, où que ce soit, ne peut s'asseoir sur un dossier en disant on le fait disparaître, on ne le verra plus. C'est ça qui est très frappant quand on voit l'évolution sur plusieurs années.
Mais c'est aussi normal que la population ne tolère plus ce genre de choses, parce que en même temps, la politique qui est menée est d'une brutalité terrible. Je veux dire, on peut pas laisser passer ce genre de choses quand on va faire la réforme des retraites
rapprochement.
Mais bien entendu, c'est exactement...
Si elle était douce et passive, néanmoins les citoyens seraient exigeants et la justice passerait.
C'est ce que nous ont dit les Gilets jaunes aussi, pendant des mois. C'est ce que nous disent les gens. Moi, je travaille en Seine-Saint-Denis, je suis dans un milieu très modeste. C'est ce que les gens vous disent au quotidien. C'est que finalement, tout le monde s'accommode avec les arrangements avec la loi quand tout va bien. Je veux dire, à Levallois, le maire est réélu régulièrement et largement. C'est quand même symptomatique.
Alors là, vous avez raison.
C'est quand même symptomatique. Aujourd'hui, c'est intolérable.
Je vous donne raison.
Je pense qu'il faut aujourd'hui être exemplaire, mais surtout quand on l'a revendiqué, quand on l'a dit, quand on l'a.
Vous savez, c'est ce que nous disent nos auditeurs. Macron a voulu une république exemplaire.
Ça ne m'étonne
pas.
Et je ne m'en émeut pas. Mais quand ceux de mon camp me le disent, je suis beaucoup plus.
Je vous rejoins sur un point. Quand la croissance n'est plus au rendez-vous, quand la machine économique et politique, économique d'abord et sociale, patine, quand l'ascenseur social ne fonctionne pas, et ça ne vaut pas que pour la Seine-Saint-Denis, quand les classes moyenne qui était le cœur de la République pendant 40 ans, ont le sentiment aujourd'hui de ne plus être pris en compte et ne plus pouvoir que leurs enfants, peut-être j'anticipe sur peut-être un sujet qu'on va évoquer, que leurs enfants ou petits-enfants puissent avoir le même statut qu'eux, a fortiori c'était là l'objectif auparavant, un meilleur statut, etc. Dans ce cas-là, l'exigence de justice devient universelle.
Mais bien sûr. Bien sûr, on a ces réactions sur notre Facebook. Hein. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Les Français sont des moutons, c'est leur problème. Nous, on doit serrer la ceinture, ils se gavent à nos frais. Les Gilets jaunes existent encore. Ne vous en déplaise, monsieur de Montvallon.
Mais les Gilets jaunes existent.
Bien sûr.
J'ai droit d'avoir une petite restriction mentale sur les vocations systématiques des Gilets jaunes.
Aujourd'hui, les deux mamelles de la France, c'est exaspération de la population et manque de confiance. On l'a dit d'ailleurs au début dans nos coups de gueule, le thème global qui ressortait de nos quatre interventions, c'était l'absolu manque de confiance des Français en qui que ce soit, en quelque institution que ce soit.
Et ça ne va pas arranger les choses.
Ça peut même concerner les juges à l'occasion.
Je suis désolé, Michel Pouzol. Oui, la politique du gouvernement est brutale vis-à-vis notamment des classes les plus défavorisées, mais ça ne justifie en rien l'exigence d'exemplarité
c'est pas ça le déclencheur. Ça renforce le mécontentement, oui, ça renforce, mais ça n'est pas le déclencheur. On doit être exemplaire, surtout quand on est dans les fonctions qu'occupe M. Ferrand ou d'autres.
Ouais. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous pour continuer à commenter l'actualité. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite l'ami André Berkoff. Je voulais vous faire réagir sur cette enquête du Secours Populaire. C'est une étude. 62% des enfants entre 8 et 14 ans craignent de devenir pauvres un jour. C'est une étude Ipsos, un pourcentage qui est en hausse de 4 points par rapport à la dernière enquête qui était en 2015. Et c'est vrai qu'on apprend que 51% des enfants estiment qu'il y a beaucoup de pauvres en France. Ça, c'est une autre question, mais pour eux, être pauvre, c'est d'abord ne pas avoir de logement, c'est 82% des réponses. Le manque de nourriture, 75%, et le fait de demander de l'argent, 66%. Ils disent qu'ils y sont confrontés à l'école et qu'ils se rendent compte qu'il y a des écoliers qui ne mangent pas à leur faim. Des chiffres tout à fait terrifiants. On s'imagine que les enfants, 8 ans, 14 ans, c'est un peu l'innocence, on pense à autre chose. Non, c'est une réelle préoccupation. Michel Pouzol,
mais
vous connaissez le sujet,
oui,
je rappelle.
Malheureusement,
vous avez
sujet,
été
oui.
à la rue, vous ouais. avez écrit un livre ouais. sur le sujet.
Oui, c'est un sujet récurrent. C'est un sujet qui... La difficulté, c'est que les franges, enfin les curseurs ont changé. C'est-à-dire qu'il y avait dans la société française une classe moyenne ascendante qui maintenait le système en vie, en gros, et qui maintenait
qui était le pivot de la société.
Et le pivot, voilà, oui, et où les enfants, effectivement, avaient une meilleure espérance de sociale, etc. Or, cette catégorie-là, qui englobe les cadres, par exemple, a été frappée de plein fouet par cette précarité. Alors, ils ne sont pas forcément tombés dans la précarité, mais ils l'ont vu se rapprocher. Ils ont vu la difficulté arriver.
Ils ont vu qu'ils n'allaient pas forcément être épargnés.
Et voilà, exactement, qu'ils pouvaient en être les victimes. Et ils ont compris que leurs enfants allaient sans doute vivre moins bien qu'eux. Et donc, ça, les enfants le sentent. Et quand vous voyez, moi, je racontais hors antenne l'anecdote avec ma fille qui a 16 ans, on parlait de son avenir, et qui me dit un jour, mais de quoi tu me parles? Je sais que mon premier boulot, malgré mes études, ce sera McDo.
Ouais.
Et ils savent qu'ils vont être auto-entrepreneurs, qu'ils vont faire de la formation, qu'ils vont faire des petits boulots, que la précarité, ça va être une part de leur quotidien. Et donc, forcément, ce sentiment, il naît de ça. Parce que de la précarité naît la pauvreté. Il faut aussi le dire dans ce pays. Et moi, je voudrais dire deux choses quand même. Parce ouais. qu'on est dans un système qu'il va falloir repenser. L'OCDE a fait une étude. Récemment, on ne peut pas dire que c'est les grands gauchistes, hein, l'OCDE. Mmh. Montrant que la France était le pays où les inégalités s'accroissaient le plus vite. Avant intervention de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, avant que notre système social intervienne, c'est l'endroit où les riches devenaient le plus riches et les pauvres les plus pauvres. Et donc, notre système social qui était pour
Chine
provoquer...
Au Brésil.
Oui, parmi les pays de l'OCDE, c'est là où c'est l'écart grandi le plus. Et notre système social qui était là pour compenser et amorcer l'ascenseur social, aujourd'hui, c'est un cache-misère pour cet accroissement des inégalités. Ouais. C'est ce que ces enfants disent.
Ouais. Alors, je préfère parler d'escalier social plutôt que d'ascenseur social, Michel Pouzol.
Oui, les ascenseurs, les escaliers sont toujours en panne.
Parce que je préfère parler d'escalier social plutôt que d'ascenseur social, parce que l'ascenseur, c'est facile d'appuyer sur le bouton et on attend que le reste se passe. Je préfère des gens qui font l'effort pour monter. Ceci étant dit, oui, la paupérisation de la France est inévitablement.
Vous ne devez pas beaucoup connaître les gens qui sont dans la pauvreté pour penser que les gens attendent d'appuyer sur un bouton pour monter.
Non, non,
parce que c'est pas leur quotidien du tout. Oui, mais c'est une très bonne image.
C'est une image. Simplement, ça veut dire que quand on a des difficultés, il faut aussi ne pas tout attendre d'un État-providence qui ne pourra jamais marcher jusqu'à la fin. J'essaie de prendre un peu de hauteur là-dessus. C'est oui, la France s'appauvrit. On a une dette qui ne cesse d'augmenter. Non, la France globalement s'appauvrit. Après, je vais affiner. Globalement s'appauvrit. Mais si, la dette de la France augmente, le PIB n'augmente pas autant que la dette. Donc je suis désolé, globalement, la France s'appauvrit. Et cette France qui s'appauvrit, elle profite, pour certains, de manière incroyable, et une grande majorité de Français, eux, s'appauvrissent. C'est là que je vous rejoins. Oui, on voit bien, d'ailleurs, la crise des Gilets jaunes l'a démontré, nous l'avons soutenue en temps et en heure, avant qu'elle soit récupérée. Aujourd'hui, ce qui est à dénoncer, c'est ce qu'on disait hors antenne, sur ces gens qui louent des bateaux de 100 mètres, parce qu'un bateau de 12 mètres, c'est pas assez important. Ouais. Mais combien sont-ils à faire ça
Mais revenons sur les enfants.
Les enfants, c'est terrible.
À force d'entendre, ce que nous dit une auditrice, à force d'entendre, on ne peut pas, c'est ce qu'ils retiennent. Hein.
C'est aussi des générations qui ont vu les parents au chômage, qui ont vécu la précarité aussi à l'intérieur de la famille, où la fin de mois est difficile. Enfin, ça fait des mois qu'on a des gens dans la rue parce que les fins de mois sont impossibles et difficiles, alors même qu'on travaille. Donc c'est une réalité. Et puis, il n'y a pas vraiment de perspective derrière. C'est-à-dire qu'on voit bien que même avec des diplômes, même avec cette histoire de la méritocratie républicaine, c'est devenu une fable. On voit bien qu'il y a une classe qui accède, oui, qui a droit, qui protège ses droits d'ailleurs, qui peut avoir des grandes écoles, qui va bénéficier de passe-droits, et pour les autres, ce sera extrêmement difficile. La classe moyenne, elle est sacrifiée sur l'autel du profit.
Oui, Dominique ?
Moi, je pense que qu'il s'agisse du climat, de la sécurité, de la nourriture, je pourrais allonger la liste sans difficulté. On vit, et comment les plus jeunes, puisque c'est ceux qui sont
interrogés
dans le sondage, ne le ressentiraient-ils pas avec angoisse dans un climat violemment anxiogène. Violemment anxiogène. Même les adultes, ils s'en rendent
bien
compte.
Bien sûr, bien sûr. Hein,
mais
donc
a fortiori,
forcément...
les jeunes qui débutent dans la vie. Ce qui se passe aujourd'hui, semble-t-il, c'est qu'effectivement, il y a le modèle qui avait permis à la France de progresser qu'à un cas selon les moments, on ne va pas réécrire tout ça en rose, hein, pendant 60 ou 70 ans, ce modèle-là est ébranlé. Alors, ce n'est pas le sujet, mais il est ébranlé, y compris dans la construction européenne, qui était la racine politique sur laquelle était fondé le modèle fondé. Mais restons sur le terrain où nous sommes. Les choix qui ont été faits à la Libération et qui ont fait l'objet à l'époque d'un consensus national, ils sont officiellement toujours de mise, et on voit que les racines sont grignotées, les fondations sont mises en cause aujourd'hui. Alors, donc effectivement, il y a une petite minorité qui est très présente dans la mondialisation et qui s'en sort et qui essaie de... qui a longtemps en plus fait preuve d'une certaine ignorance ou arrogance. Et puis, j'y reviens, les classes moyennes, cœur de la République pendant 70 ans, qui aujourd'hui sont ébranlées dans la... Je n'oublie pas les plus pauvres, les ceci, mais qui sont ébranlées parce que ce qu'elles relayaient, ce qu'elles vivaient et ce qu'elles s'apprêtaient à vivre pour leurs enfants et petits-enfants, ce n'est plus possible. Il y a quelque chose d'assez dramatique, mais je ne veux pas ajouter le climat anxiogène que je notais au
départ. Non, mais
c'est
très juste. On a Olivier qui souhaitait réagir. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Je vais essayer d'être concis. Oui. N'en déplaise à monsieur de Montvalon, les gilets jaunes sont un exemple probant de cette paupérisation.
J'ai sans doute été trop rapide dans une apostrophe.
C'est vrai,
les gilets jaunes d'origine, je considère que c'est un élément fondamental.
Non, mais d'origine, ça veut rien dire.
Ah, bah si, pour moi, ça veut dire quelque chose. Je vous laisse parler, pardonnez-moi.
Des gilets jaunes, il en existe tous les jours.
C'est notre différence.
Allez-y,
j'ai pas tous les noms, monsieur de Montvalon, mais ce que je sais, c'est que les travailleurs pauvres sont devenus une majorité en France. Que le travail n'est pas rémunéré décemment, et ça c'est une réalité française et européenne, que d'un côté la majorité c'est les gilets jaunes et de la minorité c'est les Derville, les homards, les Ferrand, qui eux ne seront pas emprisonnés même s'ils sont coupables, pas comme un SDF qui vole des pâtes, et puis arrêter avec cette dette qui est une construction qui sert les banques et qui permet de justifier toutes les inégalités, c'est le fruit du capitalisme. À un moment donné, voilà, c'est ça le capitalisme, et les enfants ils ont raison de s'inquiéter du monde qu'on leur laisse, que ce soit écologiquement ou que ce soit socialement ou économiquement. Le CAC 40 s'est jamais aussi bien porté. On a des Pinot et des Arnaud qui sont capables de sortir des centaines de millions pour Notre-Dame.
Mais qui font aussi bosser des gens. Enfin, on essaye d'être. Qui donnent de l'emploi en France. S'ils n'étaient pas là, il y aurait encore moins de boulot. Je ne dis pas qu'ils sont irréprochables, mais ils donnent des boulots aussi. Il ne faut pas voir les choses noir et blanc totalement.
Oui, il y a un truc dans les jeunes qui est marquant, c'est sur le logement. Ils mettent le logement très, très vite. Mais quand on est à Paris et qu'on apprend que le mètre carré est à 10 000 euros le mètre carré à Paris, et qu'à côté on a des gens qui vivent sous des tentes sur le quai des canals, forcément l'image elle est...
Même ceux qui sont
allez, c'est fini. Sujet sur lequel on reviendra évidemment. Merci à vous. Dans un instant, André Bercoff. Bonne journée sur